guise d'introduction, j'aimerais lire un passage dans l'évangile de Matthieu. C'est le Seigneur Jésus qui dit des choses assez étonnantes. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. » Car celui qui a en donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, en ôtera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu. Le Seigneur Jésus qui cite le prophète Ésaïe dans son chapitre 6. C'est un privilège et un honneur d'avoir été invité à vous parler ce matin de ce chapitre, chapitre tellement fort, tellement significatif. Le début du chapitre est surtout connu à cause de sa vision grandiose de Dieu, de la sainteté de Dieu. Le verset 3 est souvent chanté, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Mais la suite, c'est un trésor. Alors si ce matin vous faites partie de ceux qui commencent seulement à connaître la Bible, il faut que je vous dise un petit mot. Avant la venue de Jésus-Christ, il y a eu au sein du peuple d'Israël toute une série de personnes chargées d'annoncer un message de la part de Dieu. Et là, ce sont les prophètes. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, leur priorité n'est pas d'annoncer les choses à venir, ça en fait partie, mais ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'appeler le peuple à revenir à Dieu, à faire confiance à Dieu. Donc il n'y a aucune comparaison possible entre un prophète biblique et des astrologues ou Nostradamus. Les prophètes appellent les gens à changer de comportement, à changer de vie. Et s'ils annoncent des choses à venir, c'est pour aller dans ce sens-là. Ésaïe était l'un de ces prophètes, le plus grand, ou parmi les plus grands en tout cas. Il avait vécu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Il nous a laissé un livre de 66 chapitres contenant parmi les passages les plus lus dans les églises. Sur l'enfant à naître, on célèbre ces passages, on lit ces passages à Noël. Sur le serviteur de l'Éternel, rejeté, mis à mort, mais ressuscité. Sur la manifestation finale de la gloire de Dieu. Tellement de belles choses dans ce livre. Et le chapitre 6 raconte comment Dieu a appelé Ésaïe à devenir son porte-parole. Et là, on va lire le chapitre 6 dans la Bible du Semeur 2015. Ésaïe au chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout, chacun deux avec six ailes, deux ailes pour se couvrir le visage, deux autres pour se voiler le corps, et les deux dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple
aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en touche la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt. Envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. » Je demandais alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un dixième du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Il y a là une date, l'année de la mort du roi Ozias, c'est-à-dire pour nous 740 avant notre ère. Ce roi Ozias a régné non pas sur tout Israël, comme David et Salomon, mais uniquement sur la partie sud, ayant Jérusalem comme capitale. Il a régné 52 ans. Mais dans la dernière partie de son règne, il était gravement malade et les affaires étaient entre les mains de son fils Jotham. Mais cette mort marque quand même le changement d'une époque, un tournant symbolique, si vous voulez, et c'est là qu'Ésaïe reçoit son appel de la part de Dieu. Et alors, comment est-ce que Dieu l'appelle? Cela se passe au cours d'une vision. Ésaïe dit, « Je vis le Seigneur. » Vous connaissez un peu la Bible, peut-être, vous vous souvenez de ce que Moïse a compris, qu'on ne pouvait pas voir Dieu et survivre. Dieu n'a pas permis que Moïse le voie vraiment. Qu'est-ce qu'Ésaïe a vu? Et là, il y a un silence pudique. Ésaïe voit un trône très élevé, ce qui veut dire que Dieu est roi au-dessus des rois et des reines terrestres. Les pans de son manteau remplissent le temple, ce grand temple que Salomon avait construit. Dieu est plus grand que le temple, il le remplit. Ésaïe a vu le rayonnement de la gloire de Dieu, ça suffit. Sa vue ne pénètre pas plus loin. Mais cela suffit. Saint, saint, saint est le Seigneur. Et devant le Seigneur, Ésaïe voit des êtres fabuleux, comme on aimait en imaginer à l'époque et comme on en trouve dans l'Apocalypse. La tradition a fait de ces séraphins des anges, mais ce n'est probablement pas le sens véritable du mot à l'origine. Fondamentalement, le mot pour ces créatures célestes signifie un serpent à morsure brûlante. Six ailes, drôle de serpent, drôle d'ange. Ils sont debout, ils volent. C'est assez impressionnant. Ils ont un message. Saint, saint, saint est le Seigneur des armées célestes. 2740 ans après, on le chante toujours, mais sans les effets spéciaux, des portes qui tremblent, un temple qui se remplit de fumée. On le chante, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, Toute la terre est pleine de sa gloire, pas seulement le temple, la terre entière. Cette terre que nous connaissons, cette terre déchirée, pagailleuse, cruelle, pécheresse, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Il suffit de la discerner. Et Esaïe, comment est-ce qu'il va réagir devant cette vision de Dieu? On pourrait imaginer qu'il s'élance dans un chant de louange, qu'il prenne à son compte le chant des séraphins. Il aurait pu remercier Dieu de lui avoir accordé une vision si glorieuse. Quel privilège! Quel honneur! Quelle grâce! C'est comme ça qu'il aurait pu réagir. Mais ce n'est pas cela. Au lieu de tomber dans une extase de joie, Esaïe est confondu. Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Il se voit pécheur, solidaire d'un peuple pécheur, et il ne peut pas tenir devant un Dieu saint. Je suis perdu. Ce n'est pas le décalage entre une poussière d'humanité et la grandeur de Dieu, ce n'est pas cela. C'est le décalage effroyable entre le péché et Dieu. Je suis perdu. Avouons-le, nous n'avons pas toujours l'habitude de voir les choses sous cet angle-là. Le péché est moins présent dans la piété d'aujourd'hui qu'autrefois. Mais est-ce que la réaction d'Esaïe ne nous interpelle pas? Ses lèvres impures. Qu'est-ce que ça a pu être? Ah ben les enfants diraient, ce sont des gros mots. Mais c'est sûrement pire que ça. Des plaisanteries grivoises. Ah, derrière ces blagues, il y a souvent le dénigrement des femmes, la dévaluation de l'amour fidèle dans le mariage, la banalisation de comportements volontairement transgressifs. Mais sûrement pire que cela. Des propos qui rabaissent autrui, des vérités approximatives, des promesses faites en l'air. Lisez dans l'Ancien Testament le livre des Proverbes ou dans le Nouveau Testament la lettre de Jacques et vous verrez que les péchés de la langue ne sont pas une petite affaire. Esaïe est saisi par le sentiment d'une culpabilité bien réelle. Et maintenant, si nous avions une expérience comme celle d'Esaïe, est-ce que le Saint-Esprit pointerait le même péché chez nous? Ou autre chose? Ce serait quoi, au juste, si on se trouvait dans le temple, l'année de la mort du roi Ozias? Je suis perdu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de la vision. Esaïe est impuissant pour régler le problème de son péché, et pas seulement le problème d'un péché qu'il n'arrive pas à dompter, c'est déjà pas mal comme difficulté, mais non, il n'arrive pas à vaincre le problème du péché qui l'exclurait logiquement de la présence de Dieu. Ça, c'est le problème de fond. Et la solution est là. La solution vient de Dieu. Dans le rituel du temple, un feu brûle sur l'autel, il y a des braises. Un serpent ailé touche la bouche d'Esaïe avec une braise en disant « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » On voit bien qu'il y a quelque chose de symbolique. Au lieu d'infliger à Esaïe une douleur insoutenable qui l'empêcherait de parler, non, ce feu de l'autel le purifie. D'innombrables sacrifices ont été offerts sur cet autel pour expier les péchés des Israélites. Esaïe en bénéficie. Et pour nous maintenant, nous chrétiens, ça nous fait penser à Jésus-Christ qui a donné sa vie une fois pour toutes pour régler définitivement le problème de notre péché. Ce que Esaïe a vécu dans sa vision correspond au pardon que nous avons grâce à Jésus-Christ et sa mort sur la croix. Et maintenant, que notre péché est enlevé, Dieu nous appelle à le servir. Et pour Esaïe, cela prend la forme non d'un ordre impérieux, mais d'une recherche de volontaire. Qui marcherai-je, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et si nous n'avons pas reçu de la part de Dieu un appel foudroyant comme l'apôtre Paul, si nous n'avons pas eu une vision comme Moïse ou Jérémie, moi je trouve que ce qui se passe pour Esaïe est rassurant. Dieu cherche des gens qui soient disponibles, des gens qui disent « je suis prêt, envoie-moi ». Et là, est-ce que nous pouvons le dire nous? Sans trop savoir à l'avance quelle sera notre mission. Ou peut-être en disant simplement, là, je vois qu'il y a quelque chose à faire et moi je peux le faire. Me voici, envoie-moi. Quand Anne Rose nous dit qu'elle cherche quelqu'un pour être responsable du culte des enfants, y a-t-il quelqu'un ici qui discernerait un appel comme celui d'Esaïe? Par une grosse lumière qui vous fait tomber du cheval ou qui vous rend aveugle pendant 3 jours? Ça, c'était bon pour Paul de Tarse. Pas avec une buisson en flamme qui ne se réduit pas en cendre. Ça, c'était bon pour Moïse. Pas une voix au milieu de la nuit. C'était Samuel. Il y a différentes formes de l'appel de Dieu. Et l'appel d'Esaïe me touche particulièrement. Je suis prêt. Envoie-moi. La disponibilité d'Esaïe, le désir de servir et ensuite seulement la précision de sa mission. Mais attention, quand Esaïe dit oui à Dieu, la mission qui sera confiée est étonnante. Je vais vous le relire. Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. Je demanderai alors, jusqu'à quand, Seigneur? Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abondance. S'il subsiste encore un dixième du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais, comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Voilà la définition d'une mission comme je préférerais ne pas recevoir. Je dois endurcir les gens et ça doit continuer jusqu'à ce que mon pays soit dévasté. Vous aurez envie de proclamer ça dans les rues. Mais en tête du livre d'Esaïe, et nous l'avons vu avec notre pasteur Nicolas, il y a un appel à la repentance et il y a une promesse de restauration. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Le chapitre 1er donne un autre cadre. Esaïe a longtemps plaidé pour que les gens reviennent à Dieu, renoncent à leur idolâtrie, à leurs injustices sociales, à leurs alliances politiques douteuses. À maintes reprises, il revient sur ce thème pour appeler les gens à se tourner vers Dieu avec la promesse. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. On peut penser que c'est là vraiment le cœur du message du prophète, du début jusqu'à la fin de son livre. Mais Esaïe sait, dès l'appel de l'an 740 avant Jésus-Christ, dès son appel, Esaïe sait que son message ne sera pas entendu. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Il y a même pire. L'effet de sa prédication va être d'endurcir le peuple encore plus qu'avant. Déjà, le peuple ne veut rien entendre. Maintenant, il met des boules-quies. Si le message d'Ésaïe est fondamentalement un message d'espoir, au stade où on sent les gens, ce message va les enfoncer davantage. C'est un message de grâce qui finit par les enfoncer, eux. Indifférence, puis refus caractérisé. Voilà le schéma. Schéma tragique. Et ce qu'on pourrait dire ici, c'est que nous pensons souvent que répondre loyalement à l'appel de Dieu nous garantit le succès. Que ce sera forcément facile parce que Dieu nous appelle, Dieu nous équipe, Dieu nous donne son Saint-Esprit, tout ça est bien vrai. Mais le succès visible n'est pas toujours au rendez-vous. Pour ce qui est des résultats visibles, on pourrait dire qu'Ésaïe a eu des résultats mitigés et que son message d'espoir n'a pas eu d'effet durable. Effet visible, très mitigé. La tradition dit qu'il est même mort martyr, tué sous un roi infidèle et idolâtre. Mais devant Dieu, quel ministère! Quel succès! Quel fruit incroyable que nous savourons encore aujourd'hui. Les apparences sont trompeuses. Et donc dans ce ministère d'espoir qui vire au tragique, Ésaïe pose la question, cela va durer combien de temps? Effectivement, si on doit souffrir un peu, autant que ce soit pour peu de temps. Mais non. La perspective est terrible. Les villes seront dévastées, seront privées d'habitants. Le pays sera dévasté et transformé en désert. Les habitants seront exilés au loin et même les rescapés seront décimés. Dieu ne les nomme pas, mais il prévoit des invasions. Et surtout les invasions babyloniennes échelonnées entre 605 et 586 avant notre ère. Donc après la vie d'Ésaïe. Voilà, cela va durer longtemps et cela aboutit à une dévastation totale. Mais, au milieu du dernier verset du chapitre, au milieu du verset 13, il y a un énorme mais. Bon, la Bible du Sermon ne l'a pas mis en majuscule, ne l'a pas mis en gras, mais enfin, il y a un énorme mais. Comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. Il y a un après. Il y aura la vie après. Il y aura une semence sainte. L'arbre a été coupé. Mais dans la souche, il y a encore de la vie. À d'autres endroits, Ésaïe parlera d'un rejeton. C'est quoi un rejeton? Eh bien, quand j'ai coupé l'un de mes cerisiers, avec l'aide, pendant plusieurs années, les racines ont envoyé de nouvelles pousses que je devais tondre en même temps que le gazon. Il y avait de la vie là-dedans, alors que c'était coupé. Et donc, Ésaïe dit, après le désastre, la vie reprend une vie sainte. Après une énorme rupture, le plan de Dieu renaît, le plan de Dieu se continue. Et là, bizarrement, son image saute une étape dans le raisonnement. Il parle de semences. Bon, ça c'est une autre image de la vie. Quand il y a des incendies, bon, les semences qui sont en terre repoussent et la forêt renaît. Il passe donc du tronc abattu à la semence. Pourquoi ce saut dans le raisonnement? C'est assez simple. L'idée d'un rejeton est sous-entendue qui parle de la souche. Et cette idée d'un rejeton fait penser à ce qu'Esaïe appellerait à d'autres endroits un reste fidèle. Ou peut-être même un rejeton particulier, ça vient très dans Esaïe, un rejeton, un rameau qui est le Messie. Et donc nous passons de l'idée du tronc abattu à l'idée d'une descendance sainte. Et c'est là qu'il parle plutôt d'une semence. Il y a une double référence. Un peuple désormais saint, et puis un roi saint, le rameau qui sort d'Isaïe, et puis peut-être le rappel de la semence de la femme qui doit écraser la tête du serpent, comme en Genèse 3. Est-ce là Jésus ? De près en près, il faut dire oui. De près en près, il faut dire oui. Deux, c'est rescapé, c'est le reste fidèle. Dieu suscite un roi nouveau, une descendance sainte, une semence sainte qui écrasera la tête du serpent. C'est tout en nuance, là. Hein? Mais c'est un message désespérant jusqu'à la fin du chapitre. Et là, un espoir immense. C'est incroyable. L'année de la mort du roi Ozias, Esaïe a une vision extraordinaire. Il voit le Seigneur, il prend conscience de son péché, il se trouve gracié, purifié, et il accepte une mission exceptionnelle. Dieu lui fait voir l'endurcissement de son peuple, déjà de son vivant, plus tard l'invasion babylonienne et la résurgence d'une semence sainte. Comprenez pourquoi j'aime bien ce chapitre. Maintenant, après ce survol, qu'est-ce que je vais retenir pour moi? Loïc va l'afficher. J'arrive à le trouver. Voilà. Qu'est-ce que je retiens pour moi? Est-ce que je retiens la sainteté de Dieu? La gravité du péché? La grâce qui purifie? L'appel de Dieu est ma réponse. Une sombre prédiction historique qui s'est réalisée, ou l'annonce d'une semence sainte. Qu'est-ce que je vais retenir pour moi? Et parmi ces six thèmes, lequel est-ce que je vais méditer en rentrant à la maison? Je vous laisse faire le choix, ça va rester affiché pendant quelques secondes encore, pendant un moment de prière silencieuse. Seigneur notre Dieu, merci pour le témoignage d'Esaïe qui est parvenu jusqu'à nous, pour l'exemple de sa vie, pour la richesse de son message, et surtout pour son regard vers le Sauveur à venir. Aide-nous à être à la hauteur de tout ce qu'il nous enseigne. Au nom de Jésus.